écoutez KTO Radio, il est 20h. Tout de suite, les vêpres à Notre-Dame de Paris.
Yeah. échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nous.
Cessez de dire du mal les uns des autres. Dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est dire du mal de la loi et juger la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es plus le fidèle sujet, tu en es le juge. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ?
De l'univers, Père des hommes.
Seigneur, sauve-nous.
Sauve les opprimés, prends pitié des petits.
Seigneur, sauve-nous.
Relève ceux qui tombent. Montre-toi aux désemparés.
Seigneur, sauve-nous.
Guéris les malades, rassasie les affamés.
Seigneur, sauve-nous.
Libère les prisonniers, fortifie les faibles. affermis la foi des timides, rassemble tes fils égarés. Soir tombe, nous te prions d'illuminer nos ténèbres et de fermer les yeux sur nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Méditation présente la Minute Esprit Saint.
Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. J'écoute. De la première lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Je prie. Esprit de Dieu, habite en moi maintenant. Je répète plusieurs fois. Esprit de Dieu, habite en moi maintenant. Que mon corps et mon âme soient sans cesse habités par l'Esprit Saint. Amen.
Téléchargez Méditation, la première application de méditation chrétienne en français.
Un mois d'accès gratuit avec le code KTO.
Yeah. tête. Ma vie je l'aime pas mais j'ai peur de la perdre. J'ai dans le sang des étoiles et la terre, mais je trouve pas de sens, je me perds dans le vent, donc je suis trop dangereux. J'ai l'impression que j'ai perdu mes yeux, qu'on m'interdit de pouvoir voir les cieux. Je crois que je pourrai plus jamais être amoureux, mais que dois-je faire moi? J'ai l'impression qu'à chaque fois je suis bloqué, mais je dois faire mieux. Je poursuis cette vibe qui me rendra calme, qui m'apaise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Et c'est fort mec, j'ai l'impression de planer, même si je voulais pas voir cette lumière dans le noir. Et c'est formel, je crois qu'il y a un Dieu qui m'aime, mais je n'y croyais pas. Il est la lumière dans le noir. Il y a de la couleur dans le noir, je vois plus de choses qu'au départ. Tu me parlais, j'écoutais pas, être sûr de moi, j'arrivais pas, mais tu m'apaises quand t'es dans la pièce. Et j'ai cherché, j'ai même tourné, j'ai jamais vraiment trouvé l'amour. Désolé, j'ai pas capté ou accepté que t'étais là, t'es dans mon cœur. Oui, dans mon cœur. J'en perds le fil et que je redeviens un mec paralysé. Je veux pas m'imaginer passer une journée loin de toi. Maintenant que je reconnais ta voix. Et c'est fort mec, j'ai l'impression de planer, même si je voulais pas voir cette lumière dans le noir. Et c'est fort mec, je crois qu'il y a un Dieu qui croyez pas, il est la lumière dans le noir. Maintenant je vais de l'avant, je regarde plus en arrière. Je suis ton enfant, même dans le noir, oui tu m'éclaires. Plus rien nous séparera, car tu vis au fond de moi. J'ai déjà fait mon choix, je veux me blottir dans tes bras. Maintenant je vais de l'avant, je regarde plus en arrière. Je suis ton enfant, même dans le noir, oui tu m'éclaires. Plus rien nous séparera, car tu vis au fond de moi. J'ai fait mon choix, je veux me blottir dans tes bras. Et c'est fort mec, j'ai l'impression de planer, même si je voulais pas voir cette lumière dans le noir. Et c'est fort mec, je crois qu'il y a un Dieu qui m'aime, mais je n'y croyais pas.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, le 19e siècle est un siècle de renouveau pour le catholicisme français. Siècle à la fois fervent, siècle aussi créatif, il nous surprend par ses vocations dans un monde en pleine mutation. Or, dans cet incroyable développement, les vocations féminines ont une place toute particulière. En effet, des milliers de jeunes femmes prennent le voile afin d'embrasser la vie religieuse. Une façon pour elles de s'affirmer hors de la famille et dans le monde du travail. Toutes ces religieuses s'engagent auprès des pauvres, infirmières, pharmaciennes, responsables de services hospitaliers. Elles sont tout simplement au service des autres, au service des pauvres. Alors, quelles sont les congrégations qui répondent à cette vocation? Est-ce que ces femmes bénéficiaient d'une formation particulière? Comment les sœurs arrivaient-elles à concilier vie contemplative et vie active? Peut-on dire qu'elles sont à l'origine d'une révolution hospitalière? Comment enfin ont-elles fait face non seulement à l'évolution de la société industrielle, mais aussi à la politique de laïcisation à la fin du 19e siècle? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Pierre Lafond de Mazières et Anne Jussaume. Pierre Lafond de Mazières, bonjour. Je devrais dire d'abord mon père, pardon. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, vous êtes prêtre de l'Opus Dei, docteur en droit canonique de l'Université Pontificale de la Sainte-Croix. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à la Cato, à cette université de droit canonique. Alors, vous n'êtes pas historien, mais vous avez publié un livre très important pour les historiens. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais les historiens publient régulièrement des textes qu'ils annotent, qu'ils commentent. Et c'est ce que vous avez fait avec Henri, qui est votre oncle. Vous avez publié Charlotte, servante des pauvres. C'est un livre paru aux presses universitaires Rhin et Danube, et c'est ni plus ni moins que la retranscription de la correspondance de Charlotte de Ranceau, qui est née à la fin du XVIIIe siècle et qui est morte en 1803 et qui était précisément au service des pauvres. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Anne Jussaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférence à l'université d'Artois, et votre thèse a été publiée, Le soin des pauvres, le titre dit tout, vocation féminine dans le Paris du 19e siècle, paru aux presses universitaires de Rennes. Alors l'émission va être découpée en deux parties. Nous allons, une fois n'est pas coutume, nous allons essayer de comprendre qui était ce personnage, et puis ensuite nous irons davantage, nous aurons une approche plus généraliste donc du soin des pauvres. Je me tourne donc vers vous, mon père. Qui était cette Charlotte de Ranceau?
Alors, Charlotte de Ranceau était une noble du XVIIIe siècle qui est née en 1768, et elle était d'une famille de la noblesse plutôt liée au milieu militaire, parce que son père était un lieutenant du roi, et elle aura 20 ans à peu près au déclenchement des événements révolutionnaires. Et donc elle va être embarquée avec toute sa famille dans le tourbillon de la Révolution. Et son père, qui s'appelait Baudouin Albert Ranceau de Tortonval, va être fait prisonnier en août 1792, car il était trop proche du roi, qu'il avait défendu la ville dans laquelle il était une sorte de gouverneur, à R. En Artois, dans le nord. Et donc il est fait prisonnier en août 1792. Et puis il est condamné à mort. Condamné à mort en 1793. Alors sa fille Charlotte de Ranceau, qui l'aimait tendrement, était désemparée devant cette condamnation à mort. Et donc elle se tourne vers des prêtres à qui elle parle du sort de son père. Et finalement, elle décide de faire un vœu et de se consacrer totalement au Seigneur si le Seigneur délivre son père de la mort, au fond. Et la veille de la condamnation à mort de son père, eh bien, miraculeusement, alors qu'elle vient de prononcer son vœu, Albert Baudouin parvient à s'échapper de la prison d'Arras, où il était, et les 32 autres condamnés avec qui il était emprisonné sont guillotinés, et lui arrive à échapper à la guillotine. Il se retrouve avec sa fille Charlotte, et toute la famille part à Hambourg, en Allemagne, comme beaucoup d'émigrés pendant la Révolution. Et il s'installe dans un quartier qui s'appelle Altona, qui maintenant est englobé dans la ville d'Hambourg. Et Charlotte commence à exercer et mettre en pratique le vœu qu'elle a fait au Seigneur, de se consacrer totalement à lui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voire paradoxal, c'est que son père va s'opposer à ce vœu. Il estime que cela va nuire à son bonheur.
Effectivement, son père, qui aimait beaucoup sa fille, ils avaient une forte relation, hein, ils étaient très proches.
Votre livre, hein, je n'ai peut-être pas assez insisté, en fait, c'est la publication de la correspondance de Charlotte, toutes les lettres que Charlotte a envoyées à son père dans la deuxième période de sa vie que nous verrons après.
Exactement. Ce sont les lettres qu'elle a écrites en revenant en France.
À Paris,
Exactement. Oui. Elle écrivait à son père, et son père consignait toutes ces lettres en les écrivant dans un petit carnet qu'on a gardé dans la famille et qu'on a pu publier aujourd'hui. Et donc son père, effectivement, s'oppose au vœu de sa fille parce qu'il veut la marier, c'est l'aîné de la famille, et il est persuadé qu'elle sera plus heureuse en se mariant. Et elle s'est consacrée au Seigneur, elle ne sait pas encore exactement ce que le Seigneur lui demande, et petit à petit, pour en venir au thème de notre émission, elle comprend que le Seigneur lui demande de se dédier aux pauvres, aux ignorants, aux malades, aux prisonniers. Et donc, à Hambourg, à Altona plus précisément, elle commence à passer beaucoup de temps avec les gens les plus pauvres. Elle s'est reconvertie, on pourrait dire, en institutrice, parce que tous les nobles qui sont partis ont dû trouver un emploi et commencer à travailler dans des métiers qu'ils pouvaient faire. Elle a été institutrice, et sur son temps libre, on pourrait dire, elle allait visiter les pauvres, soigner les malades, enterrer et ensevelir les morts, et au fond, pratiquer toutes les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Et à un moment donné, quand elle est à Altona, alors que la situation...
Elle ne veut pas rentrer dans les ordres ?
Alors, elle se pose la question encore. Elle pose beaucoup de questions à différents prêtres et directeurs spirituels qu'elle a pu avoir ici ou là. Elle est en lien notamment avec un prêtre très important qui s'appelle l'abbé Ollier et Monseigneur de Boulogne aussi, qui a été important durant la Révolution, un grand intellectuel. Et donc elle va chercher des conseils à droite à gauche, et finalement elle se rend compte que elle n'est pas faite pour la vie religieuse dans une congrégation, mais qu'elle peut très bien, elle le découvrira petit à petit, accomplir son vœu de manière suivie par ce prêtre, mais de manière individuelle, on pourrait dire. Et donc, à un moment donné, quand elle est à Altona, on se rend compte que le Seigneur lui demande un peu plus. C'est-à-dire que là, elle est toujours chez ses parents, chez son père, et elle se souvient de l'Évangile qui dit, quand Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne me préfère pas à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs », elle était l'aînée, et donc elle s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs, elle les aimait beaucoup aussi, « Eh bien, n'est pas digne de moi », dit Jésus. Et donc elle se rend compte que le Seigneur lui demande de quitter ses parents. Et donc elle s'échappe d'Altona pour rentrer en France.
S'échappe véritablement.
Oui, elle s'échappe en deux temps. D'abord à quelques kilomètres pour pouvoir quand même prévenir ses parents qu'elle va partir et revenir leur dire au revoir. Et ensuite, elle part parce que ses parents la laissent filer, entre guillemets, parce qu'ils se rendent compte qu'elle est complètement décidée à revenir en France pour accomplir son vœu de continuer finalement à se dédier aux pauvres, mais aussi en ayant rompu un petit peu cet attachement qu'elle avait surtout envers son père.
Elle peut revenir en France parce qu'il y a le contexte de l'apaisement avec Napoléon Bonaparte. Elle continue son engagement auprès des pauvres. Est-ce qu'elle l'étudie un peu ? Est-ce qu'on étudiait à l'époque la pharmacopée
Alors elle-même, quand elle est arrivée à Hambourg, elle était déjà un peu malade. Donc elle a consulté beaucoup de médecins pour son cas à elle. Et elle s'intéressait aux médecines, aux médicaments, aux soins qu'elle pouvait porter aux plus pauvres. Mais on voit dans quelques lettres qu'elle aime bien conseiller des tisanes, des médicaments un peu de l'époque. Hein, mais en ce qui lui concerne, ça ne lui a pas porté... beaucoup de chance, on pourrait dire, parce qu'elle n'a pas été guérie, elle est morte très rapidement en revenant en France.
En 1803.
Exactement. Ouais. Et puis, je ne sais pas exactement comment elle a pu soigner les malades, mais c'était surtout sa présence, son accompagnement humain et les soins les plus basiques et les plus élémentaires.
Alors, il y a eu un moment important à Paris. Elle va y rester plusieurs mois. Puis ensuite, elle va aller en province à Chalot, dans la Nièvre.
Exactement. En fait, elle arrive à Paris après un long voyage qu'elle raconte par le menu dans ses lettres que nous avons publiées.
C'est très intéressant. Enfin, pour les historiens, c'est extrêmement intéressant, oui, sur le plan social, de voir toutes les descriptions qu'elle peut donner.
Oui, parce qu'elle est très observatrice. Ouais. Elle va dans les détails. Elle comprend aussi quelques enjeux historiques de l'époque. Et elle se retrouve à Paris, où, à ce moment-là, il y a beaucoup de prêtres qui sont là en attente d'être affectés, entre guillemets, ou nommés dans tel ou tel diocèse, parce que chacun doit retrouver son évêque, savoir qui est son évêque. Donc elle est à Paris, liée à son directeur spirituel, et en attendant de savoir ce à quoi elle peut se dédier, où elle peut accomplir son vœu. Et donc finalement, le prêtre qui l'a suivi, entre guillemets, est nommé à Chalot, dans la Nièvre, et donc elle le suit. Après quelques semaines, le prêtre lui a ouvert la voie, il a préparé son arrivée dans ce petit village de la Nièvre, qui est tout petit, hein, il y a 80 foyers, et elle arrive dans ce village, et le prêtre l'avait annoncé, une dame va arriver pour s'occuper de vous, etc. Et donc elle était attendue là pour s'occuper de ces gens qui étaient très pauvres. Et donc elle a commencé à monter une petite école avec 80 enfants, et ça lui prenait le matin, donc elle les instruisait, hein, c'était de l'instruction normale, et bien entendu le catéchisme qu'elle leur prodiguait. Et puis ensuite, sur son temps libre, l'après-midi, elle allait voir les pauvres, elle s'occupait aussi des malades, et puis aussi, le prêtre lui avait demandé de s'occuper de l'église du village, de l'embellir un peu, de mettre des fleurs, et elle brodait aussi des vêtements liturgiques pour cette petite paroisse.
Ce qui est touchant, c'est de l'accueil en fait des gens, de cette personne qui est issue de la noblesse et qui se penche sur la pauvreté et qui est là pour, au fond, mettre un peu de joie, de gaieté et de penser les blessures des uns et des autres.
Exactement, parce que c'était un village qui avait été laissé un peu à l'abandon, il faut bien le dire. Tous ces enfants n'avaient pas eu d'instruction pendant des années, et puis ils n'avaient pas eu aussi accès aux sacrements. Il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de pasteurs qui étaient dans la zone. Et donc, quand il voit arriver un prêtre, et puis quelques semaines plus tard, cette dame qui était toute disposée à s'occuper de tous ces enfants, de toutes ces personnes, les personnes âgées, et aussi des femmes, elle s'occupait pas mal des femmes en les réunissant, en les formant, et aussi en les instruisant.
Anne Jussaume, c'est ce type de profil, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un parcours classique, c'est-à-dire que tout au long de la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, on voit beaucoup de femmes comme ça, de la noblesse, qui décident de s'engager de cette façon.
Alors, effectivement, on voit beaucoup de femmes qui s'engagent. Les femmes jouent un rôle assez considérable dans le renouveau catholique qui se manifeste à la fin de la Révolution française et dans les années qui suivent. Et ensuite, ce sont des femmes quand même de toutes conditions qui décident de s'engager. Les femmes de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, elles deviennent souvent aussi des fondatrices de congrégations ou d'ordres religieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est manifeste et qui court tout au long du siècle. Ces femmes-là jouent un rôle important dans la société du 19e, ces femmes catholiques qui décident de s'engager, et notamment pour prodiguer de l'éducation ou des soins auprès des plus pauvres.
Je reviens vers vous, mon père, peut-être avec une dernière question, parce qu'elle meurt assez tôt, au fond. Elle meurt de quoi exactement ?
Alors, elle avait une douleur au côté, on ne sait pas exactement ce que c'était.
Quelle était cette maladie ?
C'était une douleur qui doit être liée au foie, ou on ne sait pas exactement, ou la rate.
Oui.
Et elle a eu ça dès son arrivée, même avant d'émigrer en Allemagne, et cette douleur ne s'est jamais résorbée.
Oui.
Elle est morte à 35 ans, dans ce petit village de Chalot.
C'est assez étonnant, parce que vous publiez, je crois, dans les annexes, où elle donne son plan de vie, son plan de vie à son directeur spirituel, qui est ce prêtre. Et vraiment, par le menu, il y a quelques 27 points. La journée qui se divise en 28 points, où elle est très investie, elle est voilà, très consciente de son devoir d'État, en fait.
Exactement. Elle a réglé sa vie. Ça s'appelait aussi un règlement de vie,
oui.
Où son directeur spirituel l'a aidé à faire un emploi du temps, au fond, où il y a les moments dédiés à la prière, à l'oraison, au bréviaire, à la Sainte Messe. Elle a aussi un quart d'heure d'action de grâce après la messe, où elle doit méditer avec le Seigneur présent dans son cœur juste après la communion. Et puis ensuite, voilà, elle a son emploi du temps pour ne pas perdre une minute, c'est pour être sûr, au fond, de faire la volonté de Dieu.
Oui, oui.
C'est un petit peu le sens de ce règlement de vie ou ce plan de vie qu'elle avait mis en place.
Et vous avez un lien familial avec Charlotte de Ramsau.
Voilà, exactement. Ben, je descends de ses parents. Et ces lettres ont été transmises de génération en génération. C'est mon grand-père qui a fait tout le travail de retranscription, alors qu'on avait un peu oublié ces documents.
Jacques Lafond de Mazières.
Exactement. Et puis après, avec mon oncle, mais aussi mon père, ma tante, ça a été tout un travail familial de mettre en œuvre cela. Et mon frère aussi a fait la première de couverture.
C'est à la fois un livre d'histoire, mais aussi de spiritualité, parce qu'au fond, on voit, si je puis me permettre, l'histoire d'une âme.
Oui, effectivement, on voit exactement ce qu'était une pieuse chrétienne à cette époque. Elle, ses lectures, ses dévotions.
Oui, vous donnez la liste de ses livres
exactement.
Religieux.
Donc elle a lu Saint François de Sales, elle a le catéchisme du Concile de Trente. On voit ses lectures et aussi la Bible de Royaumont. Et elle était passionnée par l'histoire du salut. Et donc toutes les histoires qui se passent dans la Bible et l'histoire du peuple juif. Et donc on voit aussi sa dévotion pour le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus, de Marie et de Joseph. Ça, j'ai découvert cette dévotion du Sacré-Cœur de Joseph par cette grande tante.
Bon. Alors, Anjusso, peut-être une dernière question sur Charlotte de Ramsau. C'est un destin unique, le fait d'avoir une personne comme ça, indépendante, qui s'investit de cette façon au service des pauvres, sous-entendu la plupart des personnes qui voulaient s'investir au service des pauvres devaient intégrer une congrégation.
Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une obligation. Il y avait un peu deux modalités, c'est-à-dire soit elle continuait à avoir une vie sociale, à se marier ou à appartenir à une famille, auquel cas elle pouvait tout à fait devenir des dames charitables, des dames patronesses, qui est vraiment le premier modèle. Et les femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie fondent aussi beaucoup d'œuvres charitables et y participent pleinement de concert avec les religieuses. Après, le 19e siècle reste une société où le célibat féminin est mal vu. Très discriminée. Donc, en fait, si on veut échapper à la vie conjugale et à la vie de famille sans souffrir du stigmate de la vieille fille, pour le dire un peu de cette manière, entrer dans une communauté religieuse, finalement, c'est le bon espace pour avoir à la fois une possibilité d'agir, une forme de sécurité matérielle, une sociabilité aussi riche, et puis pouvoir se consacrer aux soins des pauvres et à différents types d'apostolats.
Alors précisément, quelles sont les congrégations féminines qui prennent soin des pauvres au XIXe siècle ?
Alors il y en a énormément et de plus en plus. Enfin, c'est vraiment le XIXe, le grand siècle des congrégations. On estime qu'il y a environ 400 congrégations qui sont fondées. Alors toutes ne sont pas consacrées aux soins des pauvres. Alors il y en a beaucoup qui sont enseignantes. Vers 1860, c'est 2 sœurs sur 3 qui sont enseignantes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont hospitalières et une partie des congrégations qui sont mixtes, c'est-à-dire un peu à l'image de ce que faisait Charlotte, c'est-à-dire à la fois de l'éducation et du soin. Et donc vous avez ces nouvelles congrégations du 19e siècle et puis vous avez aussi des communautés anciennes, hospitalières, qui existaient déjà. Enfin, le 19e n'a pas inventé le dévouement et le soin des pauvres. Vous avez des communautés un peu traditionnelles, autonomes, comme les Augustines en fait, qui étaient présentes à Paris depuis le Moyen-Âge. Et puis vous avez des communautés plus séculières, congrégations un peu de filles à vœux simples, comme les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul qui ont été fondées en 1633, les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve, les filles de la Sagesse. Donc il y a un très très grand panel de congrégations qui œuvrent en France à cette époque, soit qui sont reconstituées au début de l'Empire ou à la fin progressivement au début du 19e, soit qui sont créées et ou ensuite qui vont se spécialiser aussi sur différents types de soins pour couvrir à peu près l'étendue des besoins alors.
Alors, nous avons fait une émission sur le monde hospitalier médiéval, au fond de la création des basiliades au IVe siècle, Basile de Césarée, jusque l'Hôtel Dieu tel qu'il se développe avec Yves de Chartres, la révolution hospitalière. Donc, en soi, ces missions auprès des pauvres ne sont pas nouvelles. Qu'est-ce qui distingue pourtant le XIXe siècle dans ce mouvement ?
Il y a déjà un phénomène d'ampleur notable. Donc, je vous l'ai dit, c'est près de 400 congrégations. C'est tout type d'activité confondue. C'est à peu près 200 000 femmes qui prennent le voile entre 1800 et 1880.
Donc, il y a une inflation de vocation.
De bonnes sœurs, qui fait que le rapport dans l'Église s'inverse. C'est-à-dire que vers 1830, on est à peu près à 2 femmes pour 3 clercs. Et en 1870, c'est l'inverse. Il y a 3 femmes pour 2 prêtres, à peu près, en France. Donc déjà, il y a un élément quantitatif, en fait, qui est important. Peut-être un deuxième point à souligner, c'est le rôle de l'État, qui encourage les communautés religieuses utiles à la société, et donc en premier lieu les hospitalières. Par exemple, les filles de la charité, dès 1800, elles peuvent à nouveau former des novices pour le service des hôpitaux. Et les communautés hospitalières sont les premières à être connues sous l'Empire par Napoléon. Il y a le grand chapitre des hospitalières de 1809 qui, par décret, propose une forme de loi cadre pour organiser la présence des congrégations et qui les reconnaît officiellement du moment que leurs statuts sont approuvés par le Conseil d'État et publiés. Et ensuite, dans un cadre concordataire, et donc en fait l'État et les administrations publiques vont massivement faire appel aux congrégations religieuses pour l'ensemble des structures d'assistance et d'éducation, pour la majorité, pas pour toutes, mais pour une grande majorité. Ce qui permet aussi de distinguer ce 19e siècle, c'est que les sœurs vont plus seulement être dans des hôpitaux ou dans un cadre privé, dans des paroisses ou dans quelques institutions type des refuges, mais elles vont suivre l'ensemble des institutions qui se développent alors pour prendre en charge tous les besoins qui émergent. Alors ça va être en premier lieu la demande d'éducation, notamment avec la loi Guizot qui demande à ce que l'instruction primaire soit assurée dans toutes les communes. On va faire massivement appel aux sœurs. Mais ce sont aussi toutes les institutions, outre les hôpitaux et les hospices, toutes les institutions dites d'enfermement ou toutes les institutions dites disciplinaires qui vont encadrer des jeunes filles, des populations jugées plutôt à discipliner. Et puis ça va être aussi tout un ensemble de structures spécialisées pour des types de malades comme les sourds-muets, les aveugles, les asiles d'aliénés, les épileptiques. Et les sœurs, en fait, elles vont répondre systématiquement à cette demande. Et ensuite, il y a peut-être un autre point aussi qu'on peut souligner, c'est la créativité interne à l'Église catholique est portée par ces femmes et les hommes qui les accompagnent dans ces créations. Elles vont avoir cette capacité à sentir les nouveaux besoins. Et du coup, il y a 2 choses qui se distinguent au XIXe siècle, c'est le soin des vieillards, avec une grande congrégation qui est fondée, c'est les Petites Sœurs des Pauvres par Jeanne Jugand en 1839 en Bretagne. Et le deuxième grand type de spécialisation, c'est la garde des malades à domicile, qui est vraiment une nouveauté du XIXe siècle, à partir des années 1820. Et vous avez 2 types de congrégations. Vous avez celles qui vont garder à domicile en se faisant payer, comme les Sœurs du Bon Secours de Troyes, par exemple. Et puis vous avez celles qui vont se dévouer gratuitement à la garde des malades à domicile. Et c'est vraiment ces 2 spécialisations-là qui marquent le XIXe siècle. Et puis après, cette capacité à investir tous les domaines de l'assistance. Elles vont tenir des crèches, des asiles. Les asiles, c'est l'équivalent des écoles maternelles. Des orphelinats, des ouvroirs. Enfin voilà, vraiment répondre. Et jusqu'aux usines, encadrer des travailleuses.
Surtout, mon père, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. D'où venaient ces femmes qui s'engageaient ? On a vu avec Charlotte de Ramsau qu'elle était originaire de la noblesse. Est-ce que toutes les classes de la société étaient représentées ? Est-ce que l'Église catholique, comme longtemps dans son histoire, elle a joué aussi le rôle d'ascenseur social ? Et puis, surtout, une question que je vous ai posée, je reviendrai peut-être dessus, est-ce que c'est un corps qui se professionnalise ? Est-ce que, au fond, la profession médicale devient, nécessite l'apprentissage, l'obtention de diplômes, etc.
Alors, ce qui était intéressant dans le parcours de Charlotte, c'est qu'on, même si elle n'est pas rentrée dans les ordres, on voit quelques motifs qui ressemblent à des parcours de jeunes filles qui rentrent. Le premier, c'est l'opposition parentale. Oui. C'est-à-dire qu'on a beau venir d'une famille catholique, les parents sont toujours un peu réticents à laisser rentrer leurs enfants dans une congrégation. Et alors, ce que vous dites quand vous dites c'est l'aîné, de fait, et c'est en particulier le cas lorsque les pères sont veufs, ils rechignent très fortement à laisser partir la fille aînée qui, en fait, remplace la mère au domicile et s'occupe des frères et sœurs. Alors, j'ai pu trouver plusieurs cas d'opposition de parents qui considèrent qu'une fille doit toujours être le bâton de vieillesse de ses parents et qu'il n'y a pas besoin qu'elle se dévoue. Je reprends les propos d'un père, elle peut se dévouer au sein de sa famille et il ne voit pas très bien le père pourquoi elle irait. Elle pourrait aussi bien remplir sa vocation et faire le bien chez elle plutôt qu'auprès d'inconnus. Donc ça, c'est une première chose qui nous dit aussi quelque chose de cette voie d'émancipation. Alors je mets des guillemets sur le terme, possible pour les femmes que représente l'entrée dans la vie religieuse. Et le deuxième point, c'était la fuite. Là, j'ai des récits. Là, je vois très bien la sœur Marie-Julie de Gorostarsou. Alors, elle, sa mère est veuve, elle a 70 ans. C'est la dernière de la famille. La jeune fille soupire depuis longtemps à être fille de la charité et sa mère s'y oppose par toutes les manières. Et un jour, sa mère, excédée par une énième demande, lui dit « Puisque tu veux me quitter, pars. » Et la jeune fille pense avoir reconnu l'évangile et donc monte sur son cheval et galope jusqu'à Dax pour aller rejoindre la maison des filles de la charité. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les entrées en religion, c'est certes la manifestation d'un désir et on voit dans les archives l'expression d'un désir de vie religieuse qui est conforme à la doctrine de l'attrait, c'est-à-dire une inclination pour la vie religieuse, une expression sensible, un désir sensible en fait de rentrer dans la vie religieuse. Donc ça, on le voit, il se manifeste. Pour autant, pour rentrer dans une congrégation, il faut que l'institution donne son accord et reconnaisse les dispositions, la vocation et les dispositions de la jeune fille et sa capacité à mener une vie communautaire. En fait, le désir de servir Dieu ou même le désir de servir les pauvres, qu'on voit aussi dans un certain nombre de vocations, que moi j'ai pu observer, alors pour parler en historienne, à partir de deux grands types de sources, qui sont les notices nécrologiques, c'est-à-dire en fait les récits de vie édifiants écrits à la mort des sœurs, et puis les demandes d'entrée, donc des petits billets qui résument la manière dont une supérieure va présenter une postulante à la congrégation en montrant les atouts et les points peut-être qui peuvent freiner une entrée. Et donc la congrégation, elle arbitre perpétuellement entre tous les critères. Et donc voilà, la piété, la moralité de la jeune fille et de la famille sont des critères importants. La capacité à être édifiante au sein d'une communauté, à supporter une vie communautaire sont importantes. La barrière sociale, elle n'est pas si forte que ça au XIXe siècle, pour répondre à une de vos questions, puisque en fait, un des grands mouvements du XIXe, c'est la démocratisation de la vie religieuse. Vous avez encore des ordres qui exigent des dotes importantes, où vous avez du coup une sélection sociale à l'entrée. Mais vous avez, par exemple, les compagnies des filles de la charité demandent une dot qui est aussi entre 400 et 600 francs sur l'année. Sur le siècle, pardon, ce qui est assez faible. La plupart des congrégations apostoliques, c'est entre 1 000 et 10 000 francs de dot. Et par contre, l'absence de dot n'est jamais un franc absolu. C'est-à-dire que d'autres femmes peuvent subvenir ou si on repère des qualités exceptionnelles chez une jeune fille, on peut l'accepter. Il faut juste qu'on arrive à trouver l'argent du trousseau et des frais du séminaire qui correspond au noviciat. Donc, et puis, vous avez aussi des congrégations qui n'exigent pas de dot, puisque quand on entre dans une congrégation active, finalement, en fait, son capital, c'est aussi sa force de travail. Donc le manque d'argent finalement peut être compensé par la capacité à travailler. Donc vous avez comme ça une très grande diversité sociale, des femmes de la noblesse, de l'aristocratie, alors qui rentrent quand même de manière prioritaire dans des grands ordres. Par exemple, c'est plus compliqué pour une famille de la noblesse de laisser sa fille entrer chez les filles de la charité, puisque servir les pauvres, c'est quand même plus une tâche de domestique, donc voilà, c'est plutôt un recrutement. Généralement, les filles de la charité, c'est plutôt un recrutement bourgeois, ou du monde paysan, ou voilà, le monde paysan qui est très vaste, qui va en fait des petits ouvriers agricoles aux propriétaires, envoie nombre de ses filles en religion. Vous avez comme ça des familles de 10 enfants qui envoient 4, 5